Alors, il nous a semblé important, voilà, vous voyez, cette évaluation, c'est aussi se tourner du côté de la recherche. Et Sabine va nous dire un petit peu, il y a des gens qui réfléchissent à ça depuis longtemps, et elle va pouvoir nous éclairer et nous nourrir en même temps.
Donc moi je vais vous parler du travail enseignant en lycée professionnel. Alors j'avais prévu une intervention que je lui ai un peu modulée en fonction des interventions précédentes. Alors tout d'abord, les recherches sur le travail enseignant ont débuté il n'y a pas très longtemps. Les chercheurs se sont intéressés après les années 2000, comment l'enseignant fait pour travailler. Parce qu'on imagine volontiers qu'il n'y a pas que le face-à-face avec les élèves, qu'il y a le travail en amont, le travail de préparation, et puis il y a le travail, celui qu'on ne voit pas. Alors, je vais déjà commencer par un petit apport avant de commencer mon propos. Dans les recherches au travail enseignant, on a différencié différents moments du travail. Le travail contraint posté, qui correspond, enfin, c'est nous qui l'avons appelé comme ça, qui correspond à l'emploi du temps et aux réunions obligatoires dans l'établissement. Il y a le travail contraint libre, c'est celui qui est relatif à la préparation des cours, à la correction des cours, qui peut se faire aussi bien dans l'établissement que à l'extérieur. Voilà. Et il y a toute une partie du travail qui est le travail libre. Qui est relatif à la formation continue, lorsque des enseignants vont voir une exposition, vont au cinéma, vont écouter un concert, effectivement, ils travaillent toujours sur comment ils vont pouvoir réutiliser ce qu'ils ont fait au cinéma, comment ils vont pouvoir réutiliser avec leurs élèves. Donc c'est cette partie du travail libre que l'inspection générale a... qui correspond à la formation continue et que l'inspection générale a du mal aussi dans un rapport de 2013 à quantifier. Voilà. Alors ça c'était un aparté que j'ai rajouté suite au propos précédent. Alors mon intervention, elle va commencer par une qualification, j'allais dire des caractéristiques du travail enseignant, ce qu'ils cherchent en ALP, ce qu'ils cherchent en anglais et les évolutions. Alors tout d'abord, à la différence des autres enseignants de lycée, les enseignants de LP n'ont pas affaire à des élèves qui ont le profil du client idéal. Et c'est-à-dire qu'ils vont devoir... c'est un sociologue, donc voilà. Ce n'est pas des élèves de LP dont il parlait en 1952, mais bon, c'est joliment dit. Les enseignants de LP estiment aussi que les élèves sont des victimes du système scolaire du coup, les réactions que ces élèves peuvent avoir, soit de la nonchalance, de la passivité, ou à l'inverse, de l'agitation, voire de la violence, que ces réactions-là, elles ne sont pas tournées vers l'enseignant, mais elles sont des réactions vis-à-vis du système scolaire. Et du coup, les enseignants de lycée professionnel ont l'habitude, prennent en compte et anticipent ces diverses réactions pour travailler avec les élèves. Le travail enseignant en LP, il s'appuie sur un objectif qui est de réapprendre les règles du travail scolaire aux élèves. Alors, là, je vais reprendre un propos de Aziz Gélab dans son dernier ouvrage sur le lycée professionnel et sur ses enseignants. Donc, il qualifie donc de subtil le travail pédagogique et didactique des enseignants, dont il caractérise deux points particuliers. L'attention qui est portée par ses enseignants aux élèves et qui se caractérise par une proximité et une disponibilité pour identifier leurs difficultés et repérer leurs besoins. Autre caractéristique, c'est l'exigence, c'est-à-dire que les enseignants de LP sont exigeants en termes d'apprentissage professionnel, cognitif, intellectuel, et qui ne lâchent rien. Ce travail est toujours en questionnement. Les enseignants questionnent leur propre pratique, et là je vais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par Dominique, c'est-à-dire qu'ils réajustent leur activité sans cesse, ils reconstruisent le cadre de l'action pour faire comprendre justement les réactions des élèves. Et de leur côté, dans les entretiens, les entretiens avec les élèves montrent qu'ils sont exigeants vis-à-vis des enseignants, c'est-à-dire qu'ils acceptent des attentions particulières à leur égard, mais pas avec des contenus gratuits. Ils n'ont pas envie qu'on les sous-estime. Donc d'un côté, on se rend compte qu'il y a une sorte de cocktail. D'un côté, des élèves qui sont exigeants vis-à-vis des enseignants, et de l'autre, des enseignants attentifs et exigeants aussi en termes d'apprentissage collectif. Une dimension qui caractérise le travail enseignant, c'est la dimension sociale du métier, et c'est ce qui fonde l'identité du métier en lycée professionnel. C'est-à-dire que les enseignants joignent aussi bien ce qu'on appelait avant l'instruction à l'éducation. Mais l'envers, j'allais dire, de ce travail, c'est que c'est un travail éprouvant. Quelles ressources les enseignants mobilisent-ils pour travailler? Tout d'abord, ils s'appuient sur l'idéal d'éducabilité des jeunes qui fonde, c'est un véritable ressort à pour leur action, c'est-à-dire qu'ils ne lâchent jamais un élève, il est toujours capable d'apprendre quelque chose. C'est une ressource, c'est-à-dire commune et partagée. Une ressource qui a moyen, c'est la socialisation des savoir-être comme manière de faire de l'éducation. C'est-à-dire, alors dit autrement, les enseignants en lycée professionnel savent didactiser les comportements scolaires. Le réapprentissage des comportements scolaires, il est didactisé, il fait vraiment l'objet de contenu d'apprentissage. Autre élément, c'est l'explicitation des contenus afin de donner du sens aux apprentissages. Et je vais rapidement faire référence à Bernard Charlot, qui en 1999 avait fait tout un travail sur les élèves du lycée professionnel, dont on dit qu'ils sont pratiques, il faut que ça soit vite fait et basé sur l'expérience. Et en fin de compte, il démontre, alors je le dis assez rapidement, que c'est plus l'intérêt qu'il y a à apprendre et au sens à donner aux apprentissages qui fait qu'ils vont rentrer dans les apprentissages. Ce n'est pas le côté pratique ou pragmatique, c'est le sens accordé. Ça sert à quoi tout ça? C'est dans cette logique. Autre source qui permet de tenir dans les établissements, de tenir dans le métier, c'est la réflexion collective pour la co-construction de situations. Alors, ça a été déjà évoqué précédemment, mais je vais y revenir dans l'idée où, comme l'enseigner ne va pas de soi, il faut quand même que l'on se mette d'accord en fonction des difficultés rencontrées par les élèves, des niveaux attendus. Et cette co-construction, elle demande aussi des moments de réunion, des moments d'échange, qu'ils soient informels ou formels. Et souvent, alors là je le dis, j'aurais pu le dire un peu plus tard, effectivement, le travail enseignant, il se transforme aussi beaucoup par rapport à ce qui se fait dans l'informel, qui n'est pas toujours visible, mais souvent les enseignants échangent et se mettent d'accord sur des choses qu'ils vont faire, qui ne sont pas décidés lors de réunions institutionnelles et affichées, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'emploi du temps contraint. Une autre source des enseignants en lycée professionnel, et qui a été aussi citée par Gélab dans son dernier ouvrage, c'est la circulation des informations dans l'établissement. C'est-à-dire que en LP, l'enseignant, il ne peut pas avoir un travail cellulaire, c'est-à-dire seul dans sa classe avec ses élèves, s'il ne communique pas avec les autres enseignants, ce qui s'est passé juste avant, la semaine d'avant, la communication des informations, aussi bien avec la vie scolaire, avec l'administration, avec les autres enseignants de l'établissement, ça fait partie des ressources qui sont mobilisées dans le travail aussi. Voilà les derniers, les quelques grandes lignes. Ce sont les ressources, les ressources principales mobilisées. Je vais, comme aujourd'hui quand même, la journée est sur l'évaluation. En matière d'évaluation, les enseignants aussi de lycées professionnels font preuve d'inventivité. Gélab parle d'une évaluation judicieuse. Je l'ai mis en gras et je l'ai cité. Qui vise la réappropriation par les élèves des normes scolaires. J'ai parlé de travail scolaire, j'ai parlé de normes scolaires. On s'intéresse, l'idée sous-jacente, c'est la réappropriation de la forme scolaire, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'apprentissage au lycée qui renvoie à la forme scolaire. Donc, c'est pas si, je ne l'ai pas nommé sur mon diaporama, mais cette forme scolaire, elle a été décrite par Guy Vincent en précisant qu'il y a un temps d'apprentissage, un temps d'évaluation, une progressivité, et que tout ça est cadré. Et c'est ce qui fait la spécificité de l'école. Alors effectivement, cette spécificité, cette forme scolaire, on se rend compte aujourd'hui dans les médias qu'elle sort de l'école pour aller diffuser ailleurs, mais parfois qu'elle n'est pas toujours intégrée par les élèves dans l'établissement. Alors, évaluation judicieuse par des stratégies de surnotation en début d'année. Je m'explique, et c'est vrai que ça a été vu par plusieurs auteurs, c'est-à-dire l'idée, c'est de rendre la note accessible aux élèves, c'est-à-dire l'accessibilité à la bonne note qui permet de restaurer l'estime de soi de ces élèves, des élèves qui sont sortis vaincus du collège et donc qui réapprennent à accepter la note et à avoir une bonne note. Donc stratégie de surnotation en début d'année et ensuite qui continue, qui se poursuit ensuite avec une augmentation des exigences, évidemment. Mais c'est un passage souvent observé en lycée professionnel. Autre stratégie, une stratégie de complémentarité entre la dimension scolaire et la dimension professionnelle. Alors ça, c'est quelque chose qui a été observé chez les enseignants professionnels, c'est-à-dire que lorsqu'on a une bonne note du point de vue scolaire, une note correcte, moyenne, au niveau scolaire, sur le registre de la dimension scolaire et du côté professionnel, les enseignants, donc ça c'est une observation qui a été faite par Gélab, peut-être que vous pourrez la discuter, les enseignants ne se satisfont pas de cette moyenne dans la partie professionnelle. Pour eux, un professionnel, c'est quelqu'un qui est excellent, c'est un professionnel de haut niveau. Donc on va rechercher une meilleure note, vers une meilleure compétence. Mais ça, ce sont des arguments qui sont mobilisés, c'est pour ça que ça a une stratégie par les enseignants pour aller vers une élévation du niveau. Autre élément lié à l'évaluation est ce que j'ai observé dans une recherche sur la mise en œuvre du CCF, c'est les règles d'évaluation qui sont extériorisées et qui sont mises à la disposition des élèves. Alors, des règles au déroulement de l'épreuve, c'est-à-dire qu'elles sont publicisées, elles sont connues des élèves, pour que les élèves puissent les apprendre, puissent les approprier. Ensuite, les règles de fabrication de la note mise à disposition des élèves pour qu'ils puissent, qu'ils comprennent sur quoi ils sont évalués et quel sens accorder à la note. Alors, ces éléments mis au jour et travaillés avec les élèves permettent de, d'inscrire les élèves dans une stratégie scolaire, c'est-à-dire que maîtrisant toutes ces règles, ils peuvent être les propres acteurs de leur histoire scolaire et du coup viser la meilleure note possible. À cette extériorisation des règles, il y a la posture professionnelle de l'enseignant aussi qui donne des informations aux élèves. C'est-à-dire que la posture professionnelle, l'enseignant, il change de posture en fonction du contexte dans lequel il est. Lorsqu'il est dans une période, dans un moment de formation, de régulation des apprentissages, donc il peut être dans une, ce que j'ai dit en introduction, dans une plus grande proximité avec les élèves, mais au moment de l'évaluation, au moment de l'épreuve certificative, à ce moment-là, cet enseignant, de par sa posture, il se transforme en certificateur, en examinateur, et qui sont autant d'indices donnés aux élèves pour qu'ils se rendent compte de l'importance de l'épreuve et que c'est lui qui est dans c'est lui face à ses propres responsabilités. Voilà. Donc, extériorisation des règles avec construction d'une posture professionnelle contextualisée. Ces éléments contribuent à donner une dimension saine à la pédagogie et explicite à la pédagogie et vise aussi pour contribuer à la réussite des élèves. Je vais passer dans ma deuxième partie sur les évolutions du travail qui ont été largement évoquées, donc qui ont été largement illustrées, mais je vais les resituer par rapport aux recherches qui ont été menées sur le travail enseignant. Le travail enseignant, il se déploie de plus en plus en dehors des murs de la classe et il a de plus en plus une dimension collaborative. La dimension collaborative devient incontournable. Et cette évolution, elle se traduit par une intensification des tâches assignées à l'enseignant. Alors, cette intensification, elle se décompose en une complexification du travail dans la classe, par une extension des tâches en dehors de la classe et par une responsabilisation de l'enseignant accrue. Alors, je vais m'appuyer sur quelques illustrations qui ont déjà été citées, donc je vais aller plus rapidement. Donc, une incitation à l'individualisation, donc la pédagogie différenciée, l'aide personnalisée, ça a été déjà évoqué ce matin, mais je vais quand même mobiliser ces nouvelles façons de travailler pour aller sur l'explicitation du travail réel. Alors, quand on incite les enseignants à faire plus de pédagogie différenciée, ou bien qu'il y a d'enseignement spécifique, l'aide individualisée, il est nécessaire aux enseignants d'échanger pour savoir ce qu'il y a à faire. Quand on demande aux enseignants, faites de l'aide personnalisée. Mais qu'est-ce que c'est que l'aide individualisée? Et lorsqu'on va observer, finalement, tout ce travail prescrit, ces prescriptions que tu as décrites tout à l'heure, liées au texte officiel, au BO, elle nécessite d'être retraduite pour être mise en œuvre sur le terrain. Et tout ce travail de traduction de la prescription pour qu'il soit transformé en travail réel, il nécessite des échanges entre les enseignants, il nécessite des discussions, des négociations, des compromis. Et toute une partie du travail qui n'est pas nécessairement travailler lors de la formation des enseignants, lors de la formation initiale. Et ce n'est pas évident de rentrer sur ce registre de travail. Et donc, ça fait partie des évolutions qu'on demande aux enseignants. Alors, j'ai illustré sur sur l'aide personnalisée, mais cette traduction de la prescription, elle se fait sur l'ensemble du travail des enseignants. Autre élément donc, qui est venu complexifier le travail dans la classe, c'est la grande hétérogénéité du public scolaire avec l'arrivée de nouveaux lycéens. Alors, nouveaux lycéens, je l'ai mis entre guillemets, parce que ce sont des élèves plus jeunes qui rentrent au lycée professionnel, qui l'ont choisi, qui n'ont jamais redoublé, et effectivement, qui ont leurs particularités, donc qui augmentent l'hétérogénéité du public. Autre, alors ça c'est le travail dans la classe. Autre évolution du travail, l'extension des tâches en dehors de celles d'enseignement. Alors je vais aussi aller rapidement parce qu'il en a, il a déjà été ça a déjà été évoqué avant. Alors je citerai tout le travail de relation avec la famille ou avec la famille au sens large, avec les personnes qui sont responsables de l'élève, et les enseignants donc, cherchent à intéresser ces personnes aux études des jeunes, ils cherchent à enrôler ses parents, ses familles, pour faire de ses parents des partenaires éducatifs. Et par exemple, du coup, ça oblige à accueillir, alors il y a des dispositifs qui sont mis en œuvre, à accueillir des parents dans des temps d'accueil adaptés à la disponibilité des parents. Ça aussi, ça fait partie de l'extension des tâches. Je parlerai rapidement de l'orientation des élèves avec APB, AFELNET. Ce sont des nouvelles tâches que l'enseignant doit intégrer et qui lui prend du temps, qui alourdit le travail. Les dispositifs de décrochage, de lutte, pardon. Je reprends mon propos. Tous les dispositifs qui sont mis en œuvre dans les établissements pour lutter contre l'absentéisme et pour lutter contre le décrochage sous-entend des réunions, des prises de contact, des procédures à mettre en œuvre. Tout ça, ce sont de nouvelles tâches qui sont affectées à l'enseignant. Je vais parler rapidement des dispositifs interdisciplinaires pour développer les compétences des élèves qui sont mis en œuvre dans certains lycées professionnels. Je ne développerai pas non plus les relations avec les partenaires extérieurs. Alors, il apparaît qu'il y a tout un travail de relation avec les tuteurs de stage. Alors, je vais dire d'une façon générique, les tuteurs de stage avec lesquels on doit retravailler pour expliquer ce qui est attendu. Et ces tuteurs de stage sont des nouveaux partenaires de travail puisqu'ils sont impliqués de plus en plus aussi dans l'évaluation des élèves. Enfin, ça, c'est observé dans les lycées professionnels agricoles. Voilà, au lieu dans les tuteurs, moi je vais observer dans ce cas-là. Donc, extension des tâches et qui sont souvent jugées par les enseignants comme des tâches périphériques au métier, qui sont loin du cœur du métier. Et du coup, qui développent, donc les enseignants, développent un sentiment d'alourdissement. Très rapidement, puisqu'on en a aussi parlé, il y a eu des illustrations largement décrites par Dominique et Philippe. La responsabilisation accrue de par la mise en œuvre du CCF, alors effectivement maintenant c'est une chose, j'allais dire intégrée pour vous, la mise en œuvre du CCF, mais la mise en œuvre du CCF, elle sous-entend la reconstruction d'un cadre de l'action pour vous enseignants, pour les élèves, pour mettre en place des épreuves pendant le temps habituel de travail, mais elle nécessite aussi de construire des règles d'évaluation de reconstruire des règles pour évaluer des élèves de façon juste. Et donc, on se rend compte que la responsabilité qui a été assumée par un jury d'examen en fin d'année, elle se déploie sur tous les enseignants. Donc, il y a un déplacement de la responsabilité du jury sur l'ensemble des enseignants qui sont amenés à évaluer leurs élèves. Alors, cette responsabilisation accrue en lien avec le CCF, j'allais dire encore plus accrue avec la certification intermédiaire suite au passage du parcours en 3 ans. Dominique l'a expliqué, une responsabilité de l'enseignant dans la politique donc, d'autonomie des établissements et cette demande d'efficacité qui est faite aux établissements, c'est-à-dire qu'un État, et en l'occurrence dans une situation de crise, alors je vais reprendre un propos, un terme qu'on emploie beaucoup, se questionne sur l'efficacité de son propre système.